Doudou qui accélère, Lorban Doudou qui termine, Lorban Doudou est champion du monde.
Pas ça Zinedine, oh non pas ça.
Regardez l'équipe de France qui fait la saga.
Saga Africa, ambiance de la
France. Has the power to change the world. It has the power to unite people.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.fm à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez les podcasts sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur les sites et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter X et mon compte LinkedIn Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Si nous avons beaucoup évoqué en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques les enjeux sociétaux pour les championnes et champions et ceux qui espèrent l'être un jour, nous souhaitons toujours faire des pas de côté par rapport à cette compétition hors norme, alors que la grande majorité des médias sont braqués sur les podiums actuellement. Comment faire en sorte que les publics les plus éloignés du sport, les plus vulnérables, profitent également de l'événement? Comment résoudre les problèmes sociaux importants par le sport? Vous savez que nous tenons à l'innovation sociale par le sport dans cette émission, et que nous tenons surtout à ce que le soufflet ne retombe pas après cet été. Aujourd'hui, ce sont des exemples formidables que nous allons vous présenter avec des acteurs qui se battent pour la valorisation de ces bonnes pratiques. Ils se battent aussi pour l'héritage des Jeux. Héritage pour lequel il y a de réelles inquiétudes aujourd'hui dans un contexte politique incertain. C'est maintenant que cela se joue et nous allons évidemment en parler. Avec nous donc, deux invités en studio et une sacrée personnalité en ligne depuis le Sénégal. Nous sommes ainsi heureux de recevoir en plateau Clément Raymond. Bonjour Clément.
Bonjour Karine.
Tu es coprésident de la FSGT 93, le comité départemental de la FSGT en Seine-Saint-Denis. La FSGT, c'est compliqué, hein. C'est la Fédération sportive et gymnique du travail, une fédération multisport. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, rappelons que c'est une fédération sportive et d'éducation populaire créée en 1934 au sein du mouvement sportif ouvrier dans la lutte contre le fascisme. C'est ça?
Tout à fait.
Mais tu auras l'occasion, évidemment, de nous en dire plus. Tu es également le directeur général de la colloque de l'Ourcq, un tiers-lieu lié à la FSGT 93 que tu nous présenteras également.
Avec plaisir.
Nous avons aussi le plaisir d'accueillir David Blou. Bonjour David.
Bonjour, bonjour.
Tu es l'auteur du film Le sport des solutions, du livre auparavant du même nom, paru aux éditions Rue de l'Échiquier en mars 2023, avec une nouvelle édition en avril 2024, et antérieurement du livre Sport Washing aux éditions Rue de l'Échiquier en septembre 2020. Et nous sommes en ligne depuis le Sénégal avec Nelly Robin. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Tu es la fondatrice de l'association Pour le sourire d'un enfant et tu es aussi directrice de recherche de l'IRD, l'Institut de la recherche pour le développement. Un très grand merci à Jérôme Sorel pour la réalisation de cette émission et on va tout de suite commencer avec Clément. Alors, j'ai essayé d'expliquer un petit peu la FSGT, mais je vais te laisser l'expliquer plus. On avait reçu Emmanuelle Bonnet-Houlage quand elle était coprésidente de la fédération et qu'elle se présentait au comité olympique. Alors, je crois que la FSGT fête ses 90 ans. Tu peux nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste?
Tout d'abord, merci de me recevoir. Et effectivement, Emmanuelle Bonnet-Houlage était venue il y a quelques mois quand elle était encore coprésidente. Donc la FSGT, l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques, fête ses 90 ans d'existence. Et donc, c'est pas rien. C'est une des plus anciennes fédérations du mouvement sportif français. Membre du CNOSF, évidemment. La FSGT, elle s'est construite sur un terreau, Karine, tu l'as dit, de lutte sociale et de lutte contre le fascisme, avec la réunification sous l'impulsion d'Auguste Delaune, de deux fédérations issues du sport travailliste. Delaune, avec d'autres, évidemment, les a réunifiées pour être plus fort, plus organisé, pour mieux défendre les droits des travailleurs, leur permettre de développer des activités physiques et sportives dans leur lieu de travail à l'époque, puisqu'on avait très peu de congés payés. Et donc, c'était aussi une façon d'optimiser le temps libéré et d'en revendiquer encore plus avec la création d'associations sportives au sein de notre fédération. Et puis évidemment, il y avait cette visée très forte, très politique, de lutte contre le fascisme dans les années 30, dans un contexte où c'était déjà sous-jacent, très fort, très prégnant. Et donc... La FGT s'est construite sur ce terreau politique très très fort, qu'on retrouve encore aujourd'hui, bien évidemment, je vais y revenir. Et donc l'écho qu'on a en cette année à la fois olympique et paralympique, et également dans un contexte de nouveau, malheureusement, en Europe, mais même dans le monde entier, de monter contre l'extrême droite, de monter de l'extrême droite, pardon, et du fascisme, fait écho considérablement à la création de notre fédération.
Le comité du 93, c'est le plus gros, hein, je crois, de la fédération.
Alors, on est là, le. Je vais pas faire affront à mes homologues dans les autres départements, mais je crois qu'on est le troisième.
Ah, médaille de bronze.
Derrière Paris et Marseille. Donc, on doit être le troisième plus gros comité sportif de la FFGT, qui compte donc au niveau national 250 000 adhérents répartis dans 5 000 associations. Donc, il y a un maillage, un réseau associatif qui est considérable, avec beaucoup de petites associations, avec des associations de travailleurs qui sont encore dans le mouvement ouvrier, qui sont aussi dans les entreprises évidemment, et d'autres associations qui se sont créées, des grands clubs omnisports historiques qui sont dans les villes. Voilà, donc c'est vraiment une typologie très très variée d'associations à travers la France, et nous en Seine-Saint-Denis on représente 180 clubs répartis sur les 39 villes, les 40 villes de la Seine-Saint-Denis, et près de 13 000 licenciés, mais on touche entre 30 et 40 000 personnes chaque année à travers nos actions à impact.
Alors, et la coloc de l'Ourcq, tu peux nous expliquer le lien?
Alors, la coloc de l'Ourcq, c'est une innovation sociale de la FFGT 93, projet à fort impact, donc qu'on a créé en 2021 en marge d'un déménagement de locaux. L'idée, elle est assez simple, c'est de dire qu'aujourd'hui, le projet de la FFGT, il doit s'étendre, il doit évidemment continuer, se renforcer, se développer dans nos associations, avec nos clubs, pour les bénévoles, pour les adhérents. Ça, c'est notre cœur. Et qu'on lâche pas et qu'on renforce au quotidien, bien évidemment. Mais il doit s'étendre pour toucher d'autres publics, pour aller chercher d'autres partenaires, pour aller chercher d'autres champs de la société. Et donc, la coloc, elle part du concept assez simple qui est de dire on déménage notre siège du comité départemental en 2020-2021. Il faut qu'il y ait un changement d'échelle significatif dans notre projet quotidien. Et donc, on a fait le constat que sur le département de la Seine-Saint-Denis, on a un territoire qui est en pleine mutation, qui bouge beaucoup, avec énormément de rénovation urbaine dans des quartiers populaires. Et donc ça, c'est une excellente chose. Il y a encore besoin d'injecter énormément hein, sur cette rénovation urbaine. Mais en tout cas, ça évolue, ça avance. Et puis en parallèle, on constate aussi des nouveaux quartiers qui sont en train d'émerger. Et donc, en constatant que sur notre territoire, là où on est implanté depuis notre création en 1968 pour la FFGT 93, sur Bobigny, on constate le long du canal de l'Ourcq une réhabilitation d'un ex-bassin ouvrier et industriel qui est rénové depuis une dizaine d'années pour en faire une ZAC, une zone d'activité et un éco-quartier. Et donc on voit arriver en une échelle à peu près d'une dizaine d'années 10 000 habitants entre la fin de Pantin jusque le début de Bondy, donc 10 000 habitants qui arrivent sur 5 villes existantes, au milieu de quartiers populaires existants. On a des habitants qui intègrent ces logements-là, qui viennent de Paris. On a des gens qui viennent de la Seine-Saint-Denis. On a du logement social. On a de l'accès à la propriété. Et en fait, toutes ces personnes-là ne se connaissent pas. Et donc, on se dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose ici, avec à la fois l'aspect, évidemment, développement des pratiques sportives, lien social, et renouer avec notre cœur, finalement, de la FFGT, notre cœur un peu historique, qui est le sport au travail. Et donc aujourd'hui, le sport au travail en 2024, c'est plus malheureusement, c'est en tout cas comme ça, le constat, c'est que c'est plus dans les usines parce que le monde a changé, le monde économique a changé, le monde du travail a changé, donc on se retrouve plutôt avec des administrations, avec des bureaux, avec des grosses entreprises, avec des collectivités, avec beaucoup d'auto-entrepreneurs pardon et de micro-entrepreneurs. Et ces gens-là, avant même le Covid, il y avait déjà une émergence du télétravail et des codes professionnels qui étaient en train d'exploser, qui ont été amplifiés avec la crise du Covid et les confinements successifs. Et donc, nous, on s'est dit, quel est l'un des principaux freins quand on discute avec les gens pour faire du sport, c'est quoi? Ils nous disent, j'ai pas le temps ou j'ai pas d'équipement à côté de chez moi. C'est les deux choses qui reviennent dans le territoire, en tout cas de la Seine-Saint-Denis. L'un des derniers, on y reviendra aussi, l'un des derniers départements de France en matière d'équipement sportif. C'est les deux principaux facteurs. Et donc, nous, on s'est dit, on va réunir à cet endroit-là, au bord du canal de l'Ourcq, face au parc de la Bergère, on va créer un équipement nouvelle génération qui va devenir un tiers-lieu, où on pourra à la fois travailler dans des espaces de coworking, faire du sport sur des temporalités qui sont adaptées à la vie quotidienne, à savoir la vie professionnelle et la vie de famille, et les contraintes qu'on rencontre toutes et tous, les transports, la gestion quotidienne, et qui va être très accessible également sur le plan social, avec des offres qui sont adaptées aux revenus de chacun, qui sont adaptées à tous les profils sociologiques, à toutes les typologies, et évidemment des activités sportives qui se déroulent en collectif sur des temps matin, midi, soir, en collectif, et qui sont accessibles quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, quel que soit le genre, quelle que soit la culture de la personne.
Alors, maintenant, on va revenir sur vos programmes, des deux, le programme de cet été, hein, puisqu'on parle beaucoup des Jeux, mais il y a des choses qui se passent sur votre territoire avant, pendant, après, pendant l'été. Est-ce que tu peux nous parler des initiatives majeures que vous avez ?
On s'est inscrit vraiment dans une dynamique depuis le début de la phase de candidature jusqu'à aujourd'hui, dans une dynamique vraiment d'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques et de valorisation de nos actions pour montrer ce que c'est que le sport associatif, le sport populaire et le sport à impact social. Donc on a créé un certain nombre d'innovations depuis une dizaine d'années qui s'inscrivent véritablement dans cette logique-là, dans cette vision. Et on a impulsé un plan d'action spécial en cet été 2024 qui s'est ouvert avec le Festival des pratiques partagées fin mai, qui est donc une initiative qui rassemble 800 personnes en situation de handicap et valides, qui créent des parcours sportifs d'inclusion, qui se rencontrent aussi dans leurs différents environnements respectifs, structures médico-sociales, collèges, clubs, tout au long de l'année, qui se retrouvent sur cette grande journée d'inclusion que nous on organise et qui permet aussi de former les animateurs sportifs, qui permet vraiment de créer une pratique inclusive durable entre personnes handicapées et valides. Ensuite, on a eu un certain nombre d'événements avec les entreprises du territoire, une course inter-entreprise au bord du canal de l'Ourcq, avec les entreprises de la Seine-Saint-Denis. On a organisé le Festiel, qui est une manifestation pour promouvoir la pratique sportive des filles et des femmes, qui est intégralement organisée par les filles et les femmes qu'on a en formation de dirigeantes dans notre programme de la FFGT 93 chaque année. Donc on a un pool de 10-12 dirigeantes qu'on accompagne et qu'on fait émerger chaque année pour prendre des responsabilités dans les clubs et dans le comité départemental et dans la fédération. Et puis donc dans le cœur de l'été, bien évidemment, on a des gros dispositifs en plein cœur des Jeux, donc qui se sont ouverts début juillet, donc avec la station d'été de la Colloque de Lourdes, qui est une programmation estivale où tous les jours, la Colloque, c'est un lieu de vie, un lieu de repos, un lieu de bien-être, avec des activités sportives, des activités culturelles et des activités festives et conviviales. On a eu un dispositif au Parc de la Poudrerie, qui est au nord-est du département, au nord, pardon, du département, qui est un très beau parc dans lequel on a animé pendant 15 jours 15 activités sportives gratuitement tous les jours pour l'ensemble de la population de la Seine-Saint-Denis. On a eu énormément de monde, plusieurs milliers de personnes. Je crois qu'on a fait plus de 5000 personnes sur 15 jours. Et puis, depuis la semaine dernière, donc depuis le 26 juillet, le parc des Jeux, donc au parc Georges Valbon, on a la chance d'avoir la confiance du département sur ce gros dispositif qui est le plus grand site de célébration de France, au parc Georges Valbon à la Courneuve. Et donc avec le CDOS 93, le comité olympique départemental, on a la responsabilité d'organiser le pôle sport de ce grand parc des Jeux, au sein duquel on propose tous les jours 30 activités sportives par jour, 70 sports au total, avec un staff d'une centaine d'animateurs, et c'est intégralement gratuit. Et puis on va terminer après le parc des Jeux avec la caravane sportive et solidaire dans les quartiers, qui est un dispositif qui va dans les quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis, 10 dates entre les Jeux et les Paras, donc pour continuer à maintenir la dynamique à la fin des Jeux, le 11 août jusqu'au 24 août. Et puis ensuite, nos grandes innovations et nos grands événements quand même qui sont maintenant nos fers de lance un peu de nos événements sportifs et qui commencent à être vraiment connus au-delà du 93 et de l'Île-de-France, que sont Nage ton canal et Nage ta Seine. Donc c'est deux événements de nage en eau libre, l'un dans le canal de l'Ourcq le 24 août, l'autre dans la Seine au parc départemental de l'Île-Saint-Denis le 22 septembre, et on terminera ce grand programme d'action le 13 octobre avec le Trail des Hauteurs, qui est un trail urbain exceptionnel qui traverse 9 villes du territoire, impulsé avec la collectivité Est Ensemble et soutenu par Impact 2024 en 2022 et 2023.
Donc on voit que c'est un très gros programme. Vous serez présent aussi au Club France ?
On sera présent au Club France avec la Ligue Régionale FSGT et la Fédération les 4, 8 et 9 août, pardon, avec un programme de 6-8 animations sportives spécifiques de la FSGT, comme le walking foot, le sport santé. On aura du parcours urbain, on aura du street workout, on aura des activités aussi sur le canal, des activités enfants multisports, de la boxe éducative, voilà. Donc tout ce qui est spécifique à la FGT sera proposé
donc
sur
ça,
ces trois jours.
On rappelle à nos auditeurs que ça se passe au Parc de la Villette.
Oui.
C'est gratuit ou ça fait partie des activités payantes du club France à 5 ou 10 euros.
C'est le fonctionnement impulsé par le CNOSF.
C'est ça. Donc, il faut réserver par contre, et c'est à prix modéré, et on peut y passer, donc faire les initiations et rencontrer les athlètes. Et puis vous avez, à propos d'athlètes, eu une rencontre récemment d'un certain Tommy Smith. Il faut peut-être rappeler à nos auditeurs qui c'est.
Alors,
parce que c'est pas n'importe qui.
C'est pas n'importe qui, c'est une légende. Tommy Smith, c'est un illustre athlète qui, en 68, au jeu de Mexico, a gagné le 200 mètres. Donc c'est sa spécialité. Ça reste d'ailleurs, je crois, l'un des meilleurs performeurs au monde sur 200 mètres. Et puis il a eu cet acte fort qui a été de lever son poing droit avec son homologue John Carlos et le troisième athlète dont j'ai oublié le nom, qui les a aussi soutenus.
Australien.
Dans cet acte antiraciste, antiségrégation et pour la défense des droits humains, des droits fondamentaux et des droits notamment de la communauté afro-américaine qui elle l'est encore aujourd'hui, mais qui à l'époque était énormément discriminée aux États-Unis. Elle l'est toujours, hein, il faut pas penser que ça s'est arrêté, mais en tous les cas, il a eu cet acte qui a été universel, qui est devenu vraiment international et qui est devenu le symbole sur le plan de l'engagement de sportifs de haut niveau sur des questions politiques. Et donc, nous, à la FSGT, on est fortement aussi engagés sur une vision, une conception politique du sport pour justement la lutte contre les discriminations, pour défendre les droits humains fondamentaux et pour permettre à chacun une égalité à travers la pratique sportive et bien évidemment dans l'ensemble de la vie quotidienne et dans la société. Donc, dimanche, on a reçu Tommy Smith à l'initiative de la ville de Saint-Ouen, qui nous a proposé il y a quelques mois d'organiser une compétition d'athlétisme avec des jeunes athlètes de nos clubs FSGT en Seine-Saint-Denis et des jeunes athlètes de la Fondation Tommy Smith, des jeunes Américains qui sont venus spécialement pendant les JO. On a organisé donc un très beau meeting d'athlétisme, d'amitié entre les peuples et avec un message fort qui était justement celui-ci de lutter contre le racisme et contre toute forme de discrimination. Donc ça, c'était dimanche, il était présent, il a donné les départs du 200 mètres. Donc voilà, ça a été très fort pour les jeunes de vivre ça, pour nous aussi. Et puis pas plus tard qu'hier matin, on l'a retrouvé à Saint-Ouen, puisque le maire Karim Bouamran, le maire de la ville de Saint-Ouen, avait inauguré, quand il était maire adjoint au sport en 2004, le premier gymnase au monde du nom de Tommy Smith. Et donc en 2024, il l'a à nouveau accueilli pour inaugurer un playground à côté de ce fameux gymnase et qui porte aussi le nom de Tommy Smith. Et il était hier, on a vécu un moment historique.
Alors très très vite, les jeunes ont l'occasion d'aller voir des épreuves
Bien sûr, oui, on a la chance, nous, donc, d'avoir un certain nombre de places avec la FSGT et surtout avec le département de la Seine-Saint-Denis qui s'est très engagé, qui permet à 180 000 personnes en Seine-Saint-Denis d'accéder à des compétitions olympiques et paralympiques. Et donc, ils ont distribué un certain nombre de places aux fédérations et nous, à la FSGT, on en a eu beaucoup par rapport au nombre de publics qu'on touche et à notre engagement dans le département. Et donc, on accompagne avec les bénévoles de club, avec nos éducateurs, tous ces jeunes de la Seine-Saint-Denis à vivre les Jeux grandeur nature pendant les compétitions.
Très bien, merci. On va passer à ta pause musicale, donc qui est un peu spéciale. Hein.
C'est oui, alors effectivement, j'ai choisi avec l'accord de mon équipe de diffuser un petit peu en avant-première notre chanson sur la FSGT 93 qu'on a créée avec une artiste de la Seine-Saint-Denis qui s'appelle Lee Rose et son producteur. L'idée, c'est que ça devienne notre hymne. Donc un hymne, c'est une chanson à la base. Donc ça devient un hymne parce que les gens adhèrent aux propos et à la musicalité. Et donc l'objectif, c'était de créer cette chanson, cet hymne pendant les Jeux, cette année-là, 2024, avec l'idée de garder une empreinte et une marque qui restera tout au long de l'année et qu'on diffusera sur nos compétitions, sur nos événements et qu'on pourra reprendre tout son cœur par rapport aux propos qui est
proposé. Alors on l'écoute en avant-première. Merci.
s'arrête. On avance ensemble, on est à l'aise. Sous le soleil ou à travers la tempête, FGT représente le 93. On est là, oh, oh, oh. Qu'importe l'âge ou bien d'où l'on vient, ta victoire se fait main dans la main. Sur tous les fronts, sur tous les terrains, détermination comme seul refrain. Qu'importe l'âge ou bien d'où l'on vient, la victoire se fait au quotidien. On y va, jamais on ne s'arrête. On avance ensemble, on est à l'aise. Sous le soleil ou à travers la tempête, FGT représente le 93. On est là, ah, ah, oh, oh. Lorsqu'on se donne les moyens, l'ambition et le talent vers de meilleurs lendemains. Quand les épreuves se précisent, n'aie pas peur et prends ma main. La réussite et le succès t'attendront au bout du chemin. Sur tous les fronts, sur tous les terrains, on se donne à fond au-delà des fins. Qu'importe l'âge ou bien d'où l'on vient, la victoire se fait main dans la main. Sur tous les fronts, sur tous les terrains, détermination comme seul refrain. Qu'importe l'âge ou bien d'où l'on vient, la victoire se fait au quotidien. On y va, jamais on ne s'arrête. On avance ensemble, on est à l'aise. Sous le soleil ou à travers la tempête, FGT représente le 93. On est là, ah, ah, ou. Dans nos cœurs, des valeurs d'inclusion et tolérance. Tout au bout de l'effort se trouve la confiance. Grâce au sport, on partage et on garde un temps d'avance. Libérés de nos peurs, unis par nos différences. Dans nos cœurs, des valeurs d'inclusion et tolérance. Tout au bout de l'effort se trouve la confiance. Allez, viens, on partage et on garde un temps d'avance. On est là, ah, ah, oh.
Bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission est sur l'innovation sociale par le sport. Nous sommes toujours en studio avec Clément Raymond, coprésident de la FSGT 93 et DG de la colloque de l'Ourcq. David Blou, auteur du livre puis du film Le sport des solutions. Et en ligne avec Nelly Robin, fondatrice de l'association Pour le sourire d'un enfant et directrice de l'Institut de recherche pour le développement. Alors, on va passer à vous, David et Nelly, mais peut-être qu'on va peut-être commencer par le début de la bande-annonce de votre film. Si vous le voulez bien, on écoute la bande-annonce du sport des solutions.
Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Le sport est un incroyable passeur d'émotions. Mais son rôle est-il uniquement de nous émouvoir au rythme des exploits de nos athlètes préférés? Depuis une quinzaine d'années, j'ai le privilège de parcourir le monde et découvrir le sport sous un angle inattendu.
Alors David, est-ce que tu peux... Tu as donc parcouru le monde et qu'est-ce que tu y as vu?
Au départ, tu l'as dit, hein, le sport des solutions, c'est d'abord un livre que j'ai choisi d'écrire une fois que j'ai quitté mes fonctions de player international. Et effectivement, pendant une dizaine d'années, j'ai eu un bilan carbone assez mauvais puisque l'association avait des actions et a toujours des actions d'ailleurs en Afrique, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien. Donc j'ai découvert en fait au travers de mes fonctions de directeur de Play comment le sport pouvait être utilisé comme outil d'éducation, d'inclusion sociale. J'ai aussi rencontré d'autres porteurs de projets et c'est cette expérience sur le terrain qui a assez profondément changé ma manière de considérer le sport. Et je pense que si on veut comprendre ce que c'est que le socio-sport ou sport impact ou sport et développement, il faut le voir en fait. J'ai voulu amener le lecteur sur le terrain pour découvrir. Alors dans le livre, il y a 9 projets qui sont dans 9 pays différents. Et en l'écrivant, je me suis dit que ça ferait un assez beau film avec l'idée de, certes, un nombre un peu plus réduit de projets puisqu'il n'y en a plus que 5 dans le film. Mais de proposer cette autre vision, version plutôt, des pratiques sportives qui sont orientées pour maximiser leur impact social.
Alors, on ne pourra parler que d'une partie, hein, parce que de toute façon, on vous conseille de le regarder. Tu as accepté qu'on mette le lien avec le podcast de l'émission sur notre site. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore vu sur Eurosport, hein, c'était diffusé sur Eurosport.
Alors, le diffuseur, c'est Eurosport, effectivement, depuis le 23 mai, mais il le diffuse également en streaming, donc il est accessible sur Internet très facilement.
Donc, on incitera tout le monde à en voir plus, mais on va quand même en parler, et déjà avec une de ses protagonistes, une expérience particulière au Sénégal, Nelly. Est-ce que tu peux nous expliquer le projet que tu as mis en place, et d'abord à la prison de Thiès au Sénégal?
Bonjour, je veux juste préciser que je suis bien la fondatrice de l'association pour le sourd d'un enfant, mais pas la directrice de l'IRD, simplement directrice de recherche à l'IRD, à l'Institut de recherche pour le développement.
Et du coup, Nelly, quel est l'impact de ce programme qui a été créé, je le rappelle, en 2015?
Depuis, plus de 600 mineurs ont participé. Et jusqu'à ce matin, aucune et aucun n'a récidivé.
Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, il s'agit d'une méthode qui a été co-construite avec l'administration pénitentiaire du Sénégal, mais également avec des psychologues et des psychiatres spécialistes de l'enfermement et de la pratique de l'escrime. Donc il y a un certain nombre de leçons qui sont déclinées, au total 60, et les mineurs viennent pratiquer 2 fois par semaine à l'extérieur de la prison. Ça fait pleinement partie de la méthode, c'est un engagement aussi très fort des magistrats. Donc ils viennent pratiquer dans une salle d'escrime que nous avons construite, et ce qui leur est proposé correspond à 5 notions psychologiques, donc l'identité, la socialisation, le contrôle de soi, la cognition, et j'en oublie
la responsabilité.
La responsabilité, merci beaucoup.
J'ai bien regardé le film.
Voilà, et donc c'est autour de ces 5 notions que les procédés éducatifs sont mis en œuvre pour permettre à chacun de ces jeunes de se reconstruire pendant le temps de détention.
Et alors pourquoi le choix de l'escrime?
Alors, la méthode escrime et justice réparatrice est née d'un constat, puisque toutes nos activités sont adossées à des programmes de recherche, et nous avions pu constater que le profil, si on peut dire, tout du moins les problématiques auxquelles étaient confrontés ces jeunes engagés dans la violence et la criminalité devenaient de plus en plus complexes, et que les réponses classiques, style exclusivement formation professionnelle, ne pouvaient pas permettre de rompre avec le cycle de récidive. Donc, comme le sport a toujours été au cœur de notre démarche éducative depuis plus de 30 ans, on a inévitablement pensé au sport, On a d'abord pensé au sport de combat pour toutes les valeurs que les sports de combat peuvent véhiculer. Aussi parce que nos collègues psychologues et psychiatres nous disaient qu'il était important que ça soit un sport individuel pour ces jeunes, pour mobiliser les notions évoquées tout à l'heure. Et progressivement, nous avons choisi non seulement l'escrime, mais plus particulièrement le fleuret. Vous savez qu'il y a trois armes en escrime, l'épée, le sabre et le fleuret. Et le fleuret est l'arme du dialogue. Pour faire simple, c'est pas la première ou le premier qui touche qui a le point, c'est celle ou celui qui a su construire la phase d'arme. Donc ça nous permet de faire combattre des filles et des garçons ensemble, ce qui n'est pas le cas dans l'escrime sportive, comme on peut le voir tous les jours au JO actuellement. L'escrime, c'est aussi le masque. Et derrière le masque, on peut être ce que l'on souhaite être et pas forcément ce que l'autre veut que l'on soit. Et c'est une manière de rompre les logiques de bande organisée. Et puis l'arbitrage, on travaille énormément sur l'arbitrage et on a intégré l'auto-arbitrage avec une variable particulière qui est que c'est celui qui est touché qui lève la main. Et comme vous l'imaginez, avec ces jeunes en situation de conflit avec la loi, on travaille sur la construction de la reconnaissance des faits et puis progressivement de la vérité.
Et alors, il me semble qu'il y a eu, pour la finale de fleuret, non, il y a eu quelque chose en duplex avec une ambassade?
Oui, pour la finale de fleuret homme, l'ambassade de France avait organisé un duplex avec les enfants que nous accueillons, parce que au-delà des mineurs qui sont en détention, l'Association pour le sourire d'un enfant a un centre d'accueil où lui sont confiés par les tribunaux du Sénégal des enfants soit qui ont fait des toutes petites bêtises, soit qui sont en danger. Et donc avec ces jeunes, ils étaient une quarantaine, on a regardé tous ensemble la finale fleuret homme et qui était retransmise en même temps à l'ambassade de France du Sénégal.
Tu tenais à dire que le programme a été co-construit avec le ministère de la Justice.
Oui, je crois que c'est une de ces grandes originalités. Nous avons inauguré l'Académie Escrime et Justice Réparatrice la semaine dernière, et elle a été inaugurée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice du Sénégal. Et ça, c'est une originalité dans la démarche des OSC, des organisations de la société civile, qui bien souvent restent malgré tout assez éloignées des structures de l'État, a fortiori des ministères régaliens comme le ministère de la Justice. Et là, c'est vraiment à la fois une co-construction dans la conception, et puis c'est aussi une co-mise en œuvre, puisque nous formons actuellement les personnels pénitentiaires à l'École nationale d'administration pénitentiaire et les éducateurs spécialisés de l'équivalent de la PJJ au Sénégal, pour qu'à leur tour, ils puissent le déployer à l'échelle nationale.
Mais encore plus original peut-être, vous formez aussi des personnes de notre PJJ, c'est ça?
Alors, des éducateurs? Ils ne sont pas encore entrés
en
formation.
Ils vont arriver.
C'est effectivement une collaboration que nous sommes en train de construire avec le ministère de la Justice en France. Et donc, nous espérons que cela se concrétise très prochainement et que l'objectif, ce n'est pas que nous déployions, nous, Association pour le sourire d'un enfant, la méthode en France, mais que les éducateurs de la PJJ, mais aussi d'autres pays qui nous ont sollicités, les choses semblent se concrétiser actuellement avec le Brésil et la Côte d'Ivoire, viennent se former au Sénégal. Et ainsi, ce sera à la fois une coopération sud-sud, mais aussi une coopération sud-nord, ce qui est, fait partie des originalités de la méthode et de l'académie.
Alors David, puisqu'on parle de la France, il y a aussi dans le film un exemple français, et puis il est dans le 18e arrondissement, celui de notre radio, donc je voulais aussi qu'on en dise deux mots.
Oui, c'est effectivement une exception, puisque dans le film, il y a un projet qui n'est pas dans le livre, puisque dans le livre, il y a un parti pris qui est celui du voyage, avec cette idée de faire un pas de côté, et de voir à quel point, en fait, ce secteur du sport et de l'impact social a évolué à l'international, et à quel point on a besoin aussi de se connecter avec ce qui existe ailleurs. Néanmoins, pour un film qui allait être projeté à la veille des Jeux, on trouvait dommage qu'il n'y ait pas d'initiative en France, puisque bon, on l'a vu avec la FSGT, il y a déjà des initiatives qui existent et parfois depuis très longtemps dans le cadre du sociosport. Mais effectivement, les Enfants de la Goutte d'Or, oui. Qui est une association implantée dans le 18e depuis de nombreuses années, qui utilise le sport de manière intelligente, fait partie du film. Et notamment parce qu'ils ont différentes approches, une approche autour de la randonnée pour les femmes. Et je tenais à montrer que, alors, il y a certes, il y a des méthodes assez incroyables dans le film, comme celle dont Nelly a parlé. Il y a la thérapie par le surf en Afrique du Sud, mais il y a aussi des choses qui sont plus simples entre guillemets à mettre en œuvre, comme cette marche féminine sportive pour des femmes qui sont parfois souvent isolées, qui ne pratiquent pas beaucoup d'activités physiques et qui ont l'occasion de se retrouver toutes les semaines, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, pour marcher. Et c'est bien plus que de la marche, puisque c'est aussi du lien social, c'est aussi simplement du plaisir aussi, le sport c'est ça aussi, et donc il y a effectivement cette initiative dans le 18e, mais on aurait pu en prendre beaucoup d'autres en France.
Et donc il y a une initiative sinon au Brésil, il y a le surf dont tu as parlé en Afrique du Sud, et puis il y a le vélo à Fribourg.
Oui, il y avait dans le livre des destinations qui étaient compliquées à filmer, puisqu'il y a Haïti qui est dans une situation malheureusement très compliquée, il y a Israël et le Proche-Orient qui sortent de la liste aussi, l'Afghanistan, donc la liste du possible c'est réduite, mais néanmoins effectivement pour ce roi d'un enfant c'était rapidement sur la liste, on voulait vraiment aller au Sénégal, et il y a aussi les projets dont tu as parlé, notamment Ways for Change, qui a créé la thérapie par le surf. Ce que je trouve que c'est intéressant dans ces méthodes-là, c'est de voir que ces méthodes montrent que le non-sportif est important pour qu'il y ait un impact social du sport. Et d'autres expertises, c'est le cas pour la méthode escrime et justice réparatrice, c'est aussi le cas pour la thérapie par le surf, puisque les enfants qui pratiquent de manière hebdomadaire sur un programme de 10 mois apprennent le surf, mais font bien plus que ça, puisqu'il y a la méditation, il y a des groupes de parole, il y a du soutien psychosocial. Donc c'est toutes ces composantes des projets qui font que le sport peut maximiser son impact social.
Donc, je vous invite tous à aller voir le film et à retrouver toutes ces initiatives. On va faire une pause avec ton choix.
Bon,
tu
choix.
T'en rappelles, ton choix musical.
C'est Bob Marley, oui. Il y a peut-être une envie de détente après ces semaines tendues d'un point de vue politique. Bob Marley pour nous faire plaisir.
Donc, on écoute Could You Be Loved.
Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Or even try to school you.
Vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission est sur l'innovation sociale par le sport. Nous sommes toujours en studio avec Clément Raymond, coprésident de la FSGT 93 et DG de la Coloc de Lourcq, David Blou, auteur du livre puis du film Le Sport des Solutions, et en ligne avec Nelly Robin, fondatrice de l'association Pour le Sourire d'un Enfant et directrice de recherche de l'Institut de Recherche pour le Développement. Alors, David, tu as une autre casquette, tu as travaillé sur le programme Impact 2024, qui est apparu 2024, et ces derniers temps, il était question de la capitalisation avant les Jeux, donc c'est des programmes à impact social. Est-ce que tu peux nous expliquer donc ce qu'il en est ressorti?
Alors,
et ce que vous avez fait, quoi.
Oui,
il y a trois.
Bah, il y a ce qu'a fait le fonds de dotation.
Donc c'est le fonds de dotation de Paris 2024.
Qui a financé plus de 1100 projets pour un montant total d'environ 50 millions d'euros sur des projets d'impact social par le sport en France, mais aussi à l'étranger, au travers du dispositif Impact 2024 international. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'il y a un programme d'accompagnement qui a été produit. Que j'ai contribué à monter et à mettre en œuvre avec de la formation, des ateliers de pair à pair, avec cette idée que c'est un soutien qui n'est pas seulement financier, mais également extra-financier. Et c'est posé la question à l'approche de la fin du fonds de dotation, puisque les Jeux clôturent aussi cette phase de financement. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce fonds de dotation? Et j'ai eu le plaisir de travailler sur un rapport de capitalisation qui est disponible depuis le 2 juillet et qui permet d'essayer de comprendre comment ces différents porteurs de projets en fait ont de l'impact. Ils ont forcément tous des particularités, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qui font que en fait ils maximisent le potentiel du sport en matière d'impact social? Et j'ai construit une sorte de théorie du changement du sport à impact qui est illustrée par un certain nombre de porteurs de projets. Et dans cette théorie du changement, il y a différentes composantes ou différents leviers qui permettent à ces porteurs de projets d'avoir l'impact. Et un exemple concret, c'est le levier de la pédagogie. L'ingénierie pédagogique, où dans le rapport, je parle notamment d'un projet qui s'appelle LASCAN, qui est à Saint-Louis, au Sénégal, et qui montre comment il s'est inspiré de toute la palette pédagogique de beaucoup de porteurs de projets différents. Et je le cite, puisqu'il y a notamment le football à 7 de la FSGT, qui est utilisé là-bas dans une notion, dans une perspective éducative. Et dans le rapport, il y a aussi Nelly, qui nous parle de la méthode, et en fait, de comment ils ont construit la méthode, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné, quels sont les défis qu'ils ont dû relever pour essayer d'aider d'autres porteurs de projets à construire leurs propres approches.
Donc Nelly, tu as participé à ces travaux de capitalisation?
Alors je n'ai pas participé directement, mais l'équipe qui a produit le rapport nous a rencontrés et a rencontré l'équipe pédagogique de manière à mieux comprendre notre démarche.
Donc on mettra aussi les liens sur le site.
Oui, alors il y a deux choses, et pour être tout à fait transparent, j'ai passé beaucoup de temps avec Nelly ces derniers temps, puisque il y a eu le film, mais il y a aussi eu ces travaux de capitalisation pour Impact 2024, et une évaluation qui a été faite pour Impact 2024 international. Là, on est effectivement allé avec l'agence phare sur le terrain à Thiès au mois de janvier dernier, et on retrouve pour Sueur d'enfant un peu dans les deux, quoi.
Et donc on mettra les deux liens, les liens partout, et c'est bien. Du coup, ça c'est sur Impact 2024, je voulais aussi parler des projets futurs et de vos intentions futures, l'héritage, on en reparlera d'ailleurs parce que Marie Barzac en charge de l'héritage à Paris 2024 viendra nous voir en aval, des Jeux Olympiques, mais aussi des Jeux Paralympiques, puisqu'après les Jeux, c'est toujours les Jeux, comme disent les Paris 2024. Clément, vous avez aussi des projets pour les prochains mois, notamment un gros projet. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots?
Oui, avec grand plaisir. Donc effectivement, on a considéré que les Jeux Olympiques et Paralympiques et tout ce foisonnement d'actions dont David parlait était un marchepied et une rampe de lancement pour aller vers quelque chose d'encore mieux demain. Donc nous, on l'utilise vraiment comme ça. C'est un tremplin. C'est absolument pas une fin en soi, et donc dès l'année prochaine, au second semestre 2025, on verra la livraison de notre changement d'échelle de la coloc de l'Ourcq qui va s'étendre avec 800 mètres carrés de plus. Donc on va garder le local actuel de la coloc pour de l'activité plutôt réservée aux entreprises, à du team building, à des séminaires et évidemment à de la rencontre sportive et sociale. Et puis on va créer un nouvel équipement. À travers ces 800 mètres carrés, on aura un duplex réservé à toute l'activité de travail, donc avec les bureaux de la FFGT 93 mutualisés avec les espaces de coworking, les salles de réunion, les salles de formation. Et ce duplex sera entouré de deux équipements sportifs. L'un qui sera multisport, qui permettra d'accueillir 15 à 20 activités sportives à la fois sur le planning de la coloc, mais également qui sera mis à disposition des écoles, du centre de loisirs, des établissements médico-sociaux, puisque c'est notre volonté de travailler véritablement en consortium et en partenariat étroit avec les acteurs locaux. Et le second sera va franchir l'étape et la transformation d'une maison sport santé qu'on est depuis 2021 puisqu'on a la labellisation ministérielle vers une maison de santé pluridisciplinaire. Et donc ça consiste évidemment à conserver l'activité sport sur ordonnance auprès des bénéficiaires éligibles, mais également auprès des seniors, auprès des personnes en situation de handicap, et d'y adjoindre un plateau technique réservé aux tests de la condition physique, aux tests à l'effort, donc qui va pouvoir aussi être utilisé par les sportifs et les sportifs de haut niveau. Et donc ça, dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'est quand même pas rien. Et puis, à côté de ce plateau technique, dans le même espace, donc on aura trois cabinets médicaux et paramédicaux qui verront l'implantation de médecins généralistes, médecins du sport, kiné, ostéo, nutritionniste. Et donc voilà, on va devenir une maison de santé pluridisciplinaire. Et moi, j'aime à dire que dans un désert médical et un désert, entre guillemets, sans être trop péjoratif, d'équipement sportif qu'est la Seine-Saint-Denis, on va apporter modestement, à notre échelle, cet équipement global avec un équipement sportif et un équipement de santé publique.
Alors, puisqu'on parle des équipements, il y a eu un plan 5000 équipements à l'occasion des Jeux. On sait que dans le 93, effectivement, il y a beaucoup de retard. Est-ce que ça a Alors, les 5000, ce n'était pas pour le 93, hein, c'était pour toute la France, bien entendu. C'était suffisant. Quelles sont vos attentes pour la suite? Parce que vous prenez en main et vous faites votre gros complexe. Qu'est-ce que vous attendez finalement du service en termes de service public, des collectivités, de l'État?
Pour revenir sur la première question, c'est à saluer. Hein. Nous, on bénéficie avec ce projet que je viens de décrire du plan 5000 équipements de l'Agence nationale du sport. Donc, on en est très fiers. Le département de la Seine-Saint-Denis a abondé à hauteur de 1 euro pour 1 euro ce que mettait l'ANS. Donc, ça nous a permis quand même d'avoir deux fois plus.
C'est l'Agence nationale du sport.
L'Agence nationale du sport. Et le département, donc, dans cette volonté d'héritage très forte, a abondé donc, les financements de l'agence. C'est très bien, ça permet d'aller au plus proche des habitants, au plus proche des gens, des territoires, avec la pratique sportive de proximité. On peut aussi mettre un bémol parce qu'il faut faire attention aussi à l'animation de ces équipements. Qui va les utiliser? Est-ce qu'il y a une parité entre les filles et les garçons, les hommes, les femmes? Faut être garant de tout ça, mais globalement, les collectivités, je pense, l'ont à l'esprit. Ceci dit, ça apporte quand même une dynamique sportive, même si l'État n'est pas le principal financeur à chaque équipement sportif créé. L'ANS, c'est pas la majeure partie des financements, hein, donc faut aller chercher des cofinancements publics, privés, etc. Donc, il y a une manne financière apportée et une dynamique apportée qui est réelle, qui est notable et saluée. Néanmoins, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que en France, plus de 50% des équipements sportifs sur le pays sont âgés de plus de 50 ans bientôt. Mmh. Donc, sont dans un état quand même de vétusté importante, ne remplissent pas à la fois les normes liées à l'accessibilité des personnes en situation de handicap, notamment la loi de 2005 pour ne citer qu'elle, ne remplissent pas les normes écologiques et environnementales. Donc, c'est des passoires énergétiques considérables. Et quand on voit parfois, quand on a connu la crise énergétique il y a un an et demi avec des collectivités qui étaient obligées de ne pas chauffer certains équipements sportifs ou de fermer des piscines parce qu'elles étaient gérées aussi en PPP, partenariat public-privé, c'est toutes ces problématiques qu'on soulève et ce qu'on souhaite impulser maintenant et qu'on a déjà travaillé avec les députés, les sénateurs et les élus locaux, c'est l'impulsion de la part de l'État d'un grand plan national de construction et de rénovation des équipements sportifs, qu'on appelle structurants, que sont nos stades, nos piscines et nos gymnases. Les équipements sportifs de proximité du plan 5000 équipements de l'ANS, c'est très bien. Ça développe plein d'actions de proximité. Nous, on en fait, on va en bénéficier et on va agir. Néanmoins, le sport, il se pratique à l'école primaire, au collège, au lycée, et se pratique dans la vie associative et dans les fédérations. Et les terrains de sport du plan 5000 équipements, ils vont être utilisés quand même avec parcimonie par ces acteurs de l'éducation nationale et du mouvement sportif associatif. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est la deuxième étape finalement du plan national 5000 équipements, mais que ce soit plus des équipements sportifs de proximité, puisque là, la dynamique est là, la livraison est en train d'être faite. Maintenant, il faut aller je prends l'exemple un peu schématique, mais faut aller à l'échelle entre le CAO, le Centre Aquatique Olympique, et le dojo dans un quartier ou la colloque de Lourdes, qu'il faut aller à cette échelle intermédiaire. Et donc ça, c'est nos piscines, nos stades, nos gymnases qui ont besoin non seulement d'être rénovés, comme je le décrivais sur ces enjeux énergétiques, accessibilité, etc., et de rénovation tout simplement, et puis en construire des nouveaux, puisque en France, il n'y a pas trop de problèmes sur la moyenne nationale. Globalement, il y a des équipements en quantité suffisante, mais quand on va chercher précisément dans certains territoires, eh bien, on constate qu'il y a des inégalités qui sont insupportables et que, en Seine-Saint-Denis, pour ne citer que le cas du département qui est au cœur des Jeux Olympiques et Paralympiques, la moyenne du département, c'est 15 équipements sportifs pour 10 000 habitants, quand vous avez une moyenne de 30 en Île-de-France et 45 en France. Voilà. Donc, nous, c'est ça qu'on porte, donc avec l'acteur qui est primordial pour impulser cette dynamique, c'est l'État, puisque les collectivités locales et territoriales sont au rendez-vous, sont prêtes, mais il faut l'acteur régalien et du service public national qui est la République pour réaliser cette égalité, puisqu'on considère que la pratique sportive est un droit pour toutes et toutes et qu'elle doit être comme telle sur l'ensemble des territoires français.
Alors, on se félicitait hors antenne du succès des Jeux et de l'engouement populaire. On peut s'attendre, et je l'espère en tout cas, je pense que vous aussi, qu'il y a un gros boom dans nos clubs, un peu dans toutes les disciplines à la rentrée. David, est-ce que tu penses qu'on est équipé pour ça? Est-ce que tu rejoins les inquiétudes et les demandes de Clément? Qu'est-ce que tu penses de...
On parle
des équipements, il y a tout ce qui est l'impact social à garder.
Oui, c'est ce que j'allais ajouter. Bon, il y a une forme de point d'interrogation sur le portage politique. Là, ça concerne le sport, mais ça concerne la France tout court. Mmh. On ne sait pas où on en sera au mois d'août ou au mois de septembre. On sait qu'on a évité le pire et on sait à ce moment-là. Après, on parle du hardware, mais il y a aussi le software. Je pense que l'impact social par le sport, il ne se décrète pas. Il faut des équipements sportifs, mais il faut aussi un accompagnement qui soit adapté. Et ça veut dire des éducateurs, ça veut dire de la formation, ça veut dire des méthodes aussi. On a parlé d'escrime et justice réparatrice, mais il y en a beaucoup d'autres approches qui permettent de faire en sorte que la pratique sportive soit plus éducative, soit plus inclusive et soit plus bénéfique pour les uns et pour les autres. Marie Barsac, quand elle viendra, elle parlera de l'héritage un peu formel. Moi, j'ai un espoir sur l'héritage informel. On a quand même vu des acteurs comme la FFGT, mais beaucoup d'autres qui sont mobilisés, qui sont vraiment emparés de cette dynamique-là, qui ont envie que ça continue. Des acteurs qui ont collaboré plus. Il y a un vrai problème de cloisonnement, de dialogue entre les différents opérateurs, et on voit que là, on a une sorte de catalyseur qui fait qu'il y a des projets collectifs qui ont émergé, et des acteurs de la philanthropie, du mécénat, qui sont intéressés, parfois pour la première fois, à ces enjeux de sport et d'impact social, et qui ont envie de continuer. Donc, le portage politique, on n'a pas la main dessus, on verra, mais je pense que c'est chacun et chacune aussi peut poursuivre cette dynamique à sa manière, à son échelle, en étant ambitieux dans ce qu'ils veulent faire en termes d'impact, avec toujours cet esprit un peu collectif qu'il faut vraiment continuer à nourrir.
Ces acteurs, en général, ils sont passés là et on continuera à les suivre et la soutenir. Nelly, est-ce que tu veux intervenir sur cette question, sur l'après-jeu, les attentes à l'international notamment?
Voilà. Dans les jeux, mais on est surtout dans les futurs jeux, les JOJ 2026, qui seront organisés pour la première fois de l'histoire sur le continent africain.
Ouais, d'accord.
Et plus particulièrement au Sénégal. Et nous espérons que parmi les athlètes qui participeront à ces JOJ, certains auront été initiés à l'escrime et au fleuret dans le cadre de la méthode escrime et justice réparatrice.
Alors, ces jeux, on va les suivre aussi. On arrive à la fin de notre émission. Ça me laisse le temps de vous remercier tous les trois. Merci Nelly Robin, David Blou et Clément Raymond. Un grand merci à Jérôme Sorel pour la réalisation. Nous vous remercions pour vos annonces, remarques et questions sur le chat, sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter X et mon compte LinkedIn Karine Bloch. Notre prochaine émission sera avec de remarquables volontaires des Jeux, trois personnalités engagées depuis longtemps pour faire vivre le sport et pour y renforcer la place des femmes. Nous parlerons donc de bénévolat, d'engagement citoyen, de médiatisation du sport féminin, de féminisation des cadres techniques, des tribunes, mais aussi de tennis de table, de football, de gymnastique et d'autres disciplines. Bon jeu à toutes et à tous et à très vite.
Et là, maintenant, de qui accéder.
Zinedine. Oh non, pas ça.
Regardez, l'équipe de France qui fait la saga. Attention,
Saga Africa, ambiance de la
France. It has the power to change the world. It has the power to unite people.